Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromit z Europy.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Une Europe aujourd'hui confrontée à une inflation qui atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Après 4 mois de guerre en Ukraine, les effets se font sentir partout, dans des États qui ont fait gonfler leurs dettes pour faire face à la pandémie de Covid, alors que l'Union européenne a déjà engagé des centaines de milliards d'euros pour relancer l'économie. Les citoyens européens, eux, voient leur pouvoir d'achat baisser. Les revendications pour des augmentations de salaire sont de plus en plus fortes. Alors, quel horizon aujourd'hui pour l'économie européenne? Nous en parlons avec nos invités dans ce Carrefour de l'Europe réalisé en partenariat avec la revue Le Grand Continent. C'est Gilles Gressani, le directeur du Grand Continent, qui nous accompagne, ainsi que Ramona Bloch, qui est directrice de la recherche et de la stratégie du groupe d'études géopolitiques. Avec nous également Massimo Amato, enseignant à l'université Bocconi de Milan, spécialiste de la monnaie, et en ligne depuis Londres, le sociologue Paolo Gerbaudo de l'École normale supérieure de Pise, qui a signé un chapitre du premier volume du papier du Grand Continent, paru chez Gallimard. Bonjour à tous. 4 mois de guerre en Ukraine et déjà les prix de l'énergie qui s'affolent et le pouvoir d'achat qui baisse. Illustration en Bulgarie avec ce reportage de Damien Vodenicharov à Sofia.
Si l'économie bulgare a un point faible, c'est le prix de l'énergie. L'essence, le fuel, l'électricité, mais surtout le chauffage. Avec un système de chauffage central hérité du communisme qui consiste à chauffer de l'eau dans de grandes centrales thermiques et à la redistribuer vers les foyers via de longs tuyaux. C'est inefficace, c'est compliqué et c'est surtout très cher, au point où les factures des ménages peuvent atteindre des centaines d'euros par mois en hiver. Georgi Christophe est retraité, il milite pour les droits des personnes âgées et il a fait du chauffage son cheval de bataille. Parce qu'il a du mal à payer ses factures astronomiques, il a déjà porté plainte. Mais cela, c'était avant une nouvelle augmentation record. La situation a empiré avec la hausse de 40% des prix du chauffage.
Cette augmentation est intenable. Il y aura une perte massive de clients du chauffage central. À Sofia, ce sera la catastrophe parce que le chauffage, c'est un service social. Les gens doivent être au chaud pendant l'hiver. C'est un besoin essentiel. Ce n'est pas juste du business.
Une augmentation du montant des retraites, très attendue, entre en vigueur au 1er juillet. Mais avec une inflation annuelle de plus de 14%, ces augmentations paraissent dérisoires.
Les personnes à la retraite ne peuvent survivre toutes seules dans ces conditions. On doit compter sur l'aide des proches, des enfants qui travaillent à l'étranger. On n'est pas seulement oublié par le gouvernement, on est confronté à un comportement hostile. Si on pouvait tous mourir pour diminuer les dépenses, ce serait pour le mieux.
C'est un constat terrible. Et la Bulgarie n'est pas le seul pays confronté aux difficultés économiques. En Espagne, par exemple, le pain est en passe de devenir un produit de luxe. Ça ressemble à une situation explosive, Gilles Gressani.
Mais cela est une situation explosive parce qu'au fond, l'énergie et l'inflation, ce sont deux moments dans lesquels la politique et l'économie deviennent quelque chose d'extrêmement concret et rentrent dans le portefeuille, dans les poches de chacun d'entre nous. Et au fond, j'aimerais bien qu'on reste juste un instant dans cette poche, dans ce portefeuille, parce qu'il y a un élément d'inertie un peu paradoxal qui a été présent dans les dernières 10 ans de la construction européenne. C'est au fond, si on regarde la presse internationale, assez systématiquement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise, le Covid, le terrorisme, le Brexit, elle annonce la fin de l'intégration européenne, elle annonce la fin de l'Union européenne. Et au fond, on a vu que, d'une façon chaotique parfois, par les crises évidemment, au fond, cette intégration a continué à trouver une forme de redéploiement, de nouvelle dimension. Et c'est un parti, et on le voit avec les élections, par exemple, qui viennent d'avoir lieu en France, avec l'élection de présidentielle, c'est un parti aussi parce que... Les pays de la zone euro, en fait, ont vu une forme d'adhésion, d'appartenance de la part de l'électorat général vis-à-vis de cette chose qui est dans notre portefeuille, qui est l'euro, qui est une monnaie. Et c'est un peu l'énigme de la monnaie, pour reprendre un peu la formule magnifique de Massimo Amato, c'est l'énigme de l'euro. Pourquoi, au fond, on a eu autant de... Pourquoi les retraités qui votent Front National obligent Front National à revoir sa ligne sur la sortie de l'euro? Pourquoi les entrepreneurs du nord-est de l'Italie qui votent pour la Ligue du Nord obligent la Ligue du Nord à revoir la ligne? C'est parce qu'au fond, ils projettent dans cet objet-là symboliquement un imaginaire de protection et de renforcement qui dépasse le cadre strictement national. Et la crise de l'inflation est une crise précisément de cet objet-là.
Avec la pandémie de Covid ces deux dernières années, on a vu les États européens intervenir de nouveau dans l'économie. Paolo Gerbaudo, on a l'impression que des mots comme la planification, qui étaient un petit peu passés de mode, reviennent dans le débat. C'est une mutation qui est juste temporaire ou qui s'inscrit dans la durée ?
Oui, il y a beaucoup de débats sur cela. Je pense qu'ils sont face à une transformation à long terme du discours et de la pratique politique et face à un nouvel État interventionniste. Donc, nous venons de plusieurs décennies de domination du néolibéralisme lorsqu'il avait un large accord entre le centre droit et le centre gauche pour réduire les pouvoirs de l'État et libérer les pouvoirs du marché. Mais maintenant, il y a beaucoup d'urgences. La pandémie, la guerre en Ukraine, la catastrophe du changement climatique qui oblige les décideurs politiques à suspendre les conditions normales du marché, même s'ils voudraient faire le contraire. Des mesures de relance sur l'investissement public, en passant par le retour de la planification indicative sur la politique de l'énergie, les plans nationaux d'atténuation et d'adaptation au climat. Nous vivons pas plus dans une ère néolibérale, mais dans une ère néo-étatiste, où la question clé est de savoir comment utiliser l'État. Mais à ces questions, il y a des réponses très différentes à droite et à la gauche.
Ramona Bloch, c'est vers vous que je me tourne. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre cette Banque centrale européenne aujourd'hui et les États européens ?
Je vais, pour répondre à cette question, je vais revenir effectivement un tout petit peu sur l'article de Barry Schenkrin qui est paru dans le volume papier politique de l'Interregne. Son article s'intitule « Gouverner avec la dette ». Et qui offre des perspectives particulièrement intéressantes sur ces questionnements. Et je vais revenir sur trois points précis. Et le premier, c'est que pendant la pandémie de Covid, le consensus budgétaire qui prévalait jusqu'en 2020 a complètement été bouleversé. Et à cet égard, il est important, par exemple, de se souvenir de la crise de la dette grecque et de comparer les réponses que les gouvernements ont su apporter à l'époque et qu'ils ont apportées pendant la crise sanitaire. Pendant la pandémie, ce qu'on a remarqué, c'est que le gouvernement en a enregistré des déficits sans précédent et pareil, ils ont accumulé des dettes sans précédent. Et au niveau européen, on a mis en pause le pacte de stabilité et de la croissance qui était devenu un peu l'obsession des pays du Nord. Et il faut le rappeler également que les 27 ont pour la première fois convenu d'un plan de relance extraordinaire de 750 milliards d'euros. Constitué des prêts et des subventions financés pour la première fois par une dette commune. Et le deuxième point de Barry Schenkrin, qui l'illustre très bien, c'est qu'il y a ce schéma qui se répète à travers l'histoire, que les États s'endettent et s'emprunt pour faire face aux urgences nationales, et en premier lieu les guerres, soit pour étendre leur territoire ou défendre le royaume et sa survie. Donc emprunter pour mettre en place une défense nationale solide a contribué à renforcer l'État, non seulement sur le plan matériel, mais au sein politique, parce qu'un État qui sait assurer la protection des citoyens, il est légitime aux yeux de ses citoyens.
Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid, où ça semblait impossible pour un État de ne pas aller s'endetter pour justement protéger les citoyens de la pandémie, alors que Massimo Amato, les services publics, par exemple, ces dernières années, notamment les hôpitaux, je pense en Italie comme en France, on l'a vu, sont devenus des endroits particulièrement mal dotés.
Tout à fait, mais là, c'est l'effet du long terme de ce qu'on a appelé avec un oxymore l'austérité expansionniste. Voilà. Mais l'austérité n'est jamais expansionniste. Quand vous serrez les budgets, et tout simplement, il faut couper. Et quand on coupe normalement les services publics. Et c'était exactement le cas. Donc, c'est clair que le Covid est arrivé dans l'un des points les plus bas, disons, de la dotation des capitales sociales, dans ce sens, et des capitales publiques pour la santé, la sûreté, et aussi la recherche d'une certaine manière. Et donc là, il y a eu une inversion de tendance. Je ne sais pas si ça va être une inversion définitive, mais en tout cas, c'est intéressant de remarquer que cela s'est passé, en effet.
Paolo Gerbaudo, c'est ça que vous dites quand vous dites on est passé du néolibéralisme au néo-étatisme ?
Oui, exactement. Donc maintenant, il y a beaucoup de questions où l'État doit intervenir, mais les politiciens, ils ne veulent pas intervenir. Parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont dans l'ère de la soi-disant grande modération, où l'intervention de l'État était très limitée. Il y avait cette impression d'un automatisme du marché, il y avait cette impression d'un marché qui s'autorégulait. Mais maintenant, nous vivons dans une situation de grand changement et d'imprévisibilité qui bouleverse les conditions même de la normalité, qui permettent également au marché de fonctionner. Donc, cela oblige l'État à poursuivre un interventionnisme très fort, non seulement pour suspendre des opérations des marchés, comme c'est fait déjà sur le marché de l'énergie, par exemple, mais aussi pour revenir au développementalisme, de créer des investissements publics, mais aussi des entreprises d'État pour combler les vides là où les marchés n'est pas capable de résoudre les problèmes des citoyens.
Est-ce que vous pouvez répondre, vous, à la question de Massimo Amato? Est-ce que c'est un phénomène pérenne qui est en train de se mettre en place?
Je crois que c'est un phénomène pérenne parce qu'il y a urgence et après autre urgence et autre urgence. Et les politiciens, ils disent que c'est seulement temporaire, qu'on va retourner dans la condition normale du marché. Mais après ça, il y a une nouvelle urgence. Et je crois qu'on doit accepter que nous vivons dans une ère d'urgence, où l'urgence, c'est la nouvelle normalité.
L'inflation est donc partie à la hausse avec la reprise suivant les confinements. Elle s'est considérablement accélérée avec la guerre en Ukraine. Ce sont ces urgences qu'évoquait à l'instant Paolo Gerbaudo. Mais cette inflation, elle n'est pas vécue de la même façon partout en Europe. Ça n'a rien à voir avec les chiffres d'ailleurs. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Vous l'avez bien sûr constaté. Vous payez votre pain plus cher, votre essence plus chère, vos courses plus chères. En France, l'inflation en juin approche les 6% sur un an. C'est plus de 7% en Allemagne, plus de 10% en Espagne. Beaucoup trop ? Pensez à la Turquie. Les chiffres officiels annoncent 70% d'inflation en un an. Et pour certains économistes, c'est même sous-estimé. Selon eux, les prix ont presque triplé.
Le pays est entré dans une période d'hyperinflation, ce qui a des répercussions aussi sur la politique. Car les électeurs jusque-là favorables aux partis au pouvoir le sont de moins en moins.
Et oui, derrière ces chiffres, il y a des vies quotidiennes plus compliquées, voire bouleversées, mais des conséquences politiques très diverses. À taux d'inflation comparable, les Européens ne réagissent pas de la même manière. Une enquête du Conseil européen pour les relations internationales auprès de 8000 citoyens met en évidence les clivages. Il y a ceux qui sont déjà lassés du soutien inconditionnel à l'Ukraine, s'ils doivent le payer de leur poche. C'est le cas des Allemands, des Français ou des Italiens, qui épargnent beaucoup.
Selon les estimations du quotidien Sole 24 Ore, avec une inflation entre 6 et 7% et l'érosion du capital qu'elle implique, 122 milliards d'euros d'économies risquent de s'envoler. Si on ajoute à ça la chute du pouvoir d'achat, la perte moyenne par famille atteint presque les 6 000 euros.
Et il y a évidemment les anciens satellites de l'URSS, pour qui Moscou reste le danger absolu. La défaite de Poutine vaut bien des difficultés économiques. En Estonie, par exemple, en un an, les factures d'électricité ont plus que doublé, celles de gaz ont triplé, l'essence a grimpé de 40% et la nourriture d'un peu moins de 20%. Mais tout le monde a en tête que ces sacrifices ne sont rien comparés à ceux des Ukrainiens. C'est le prix à payer pour la liberté en Europe. Un avis partagé par tous ceux qui ont une frontière proche de la Russie, la Roumanie, la Pologne, la Suède... Mais bizarrement, les Britanniques sont aussi dans ce groupe. La BBC donne carrément des conseils pour gérer votre budget en ces temps d'inflation. Elle appelle ça le 50-30-20.
La règle de base, c'est de diviser votre revenu mensuel en trois catégories de dépenses. 50% pour les besoins, ça comprend des choses comme les factures, 30% pour les désirs, ce qui vous fait plaisir, et 20% pour vos économies ou rembourser vos dettes. Laissez-nous vos conseils budgétaires dans les commentaires.
Pas de quoi dramatiser, il faut trouver calmement des solutions. Pas étonnant donc si Boris Johnson affiche un soutien en béton à Volodymyr Zelensky, s'il veut armer l'Ukraine toujours plus. Il a le soutien des Britanniques, il en tire un bénéfice politique. Emmanuel Macron est dans une position plus compliquée, d'où son ambiguïté.
Mais nous aurons demain une paix à bâtir, ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure, nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation.
Derrière cette formulation contestable, on comprend l'idée. Pour la paix, il va bien falloir discuter. Un jour. La question est de savoir si ce jour est venu. Les Européens sont divisés et c'est Moscou qui bénéficie de cette fracture.
Carrefour de l'Europe face à l'inflation, à la dette. Quel horizon pour l'économie européenne en partenariat avec la revue Le Grand Continent et nos invités, Paolo Gerbaudo et Massimo Amato. Je profite d'avoir autour de la table italien, roumaine et un autre italien en ligne depuis Londres. C'est vrai qu'il y a cette perception différente, Ramona Bloch, de l'inflation et de ce que ça veut dire que d'avoir des difficultés économiques face à la menace russe.
L'inflation fait mal à tout le monde de manière égale, mais la perception du sacrifice qu'on est prêt à faire, je pense qu'il est très différent à l'Est de l'Europe par rapport à l'Ouest de l'Europe. Et un exemple que je prends assez naturellement, c'est la Bulgarie, qui a été le pays qui a refusé le plus clairement à payer les livraisons de gaz en rouble, et le premier pays qui s'est fait couper les livraisons de gaz, alors qu'il est très très dépendant des fournisseurs russes.
En Italie, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit face à ces sacrifices qu'on demande à tous les Européens?
Mais disons, Massimo Amato. Face à une position gouvernementale très, très nette, pilotée au sens positif, disons, gérée et organisée par Mario Draghi, en effet, dans l'opinion publique, il y a des objections et des réserves, disons. On est moins concerné directement et donc on voit plutôt les effets négatifs. En plus, dans un pays où la polarisation des revenus fait qu'il y a vraiment un pourcentage croissant d'Italiens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, qui sont vraiment atteints par l'inflation de façon directe et qui donc sont aussi peut-être la proie de positions, disons, moins fortes vis-à-vis de la Russie. Donc, il faut négocier à tout prix, il faut laisser tomber, etc. etc.
Est-ce qu'on croit en l'Europe aujourd'hui, en Italie? C'est un pays qui a un fort sentiment européen. Est-ce que la crise en cours donne envie aux Italiens ou donne la certitude aux Italiens que la situation sera réglée grâce à l'Europe?
Alors, l'Italie a eu des vagues de euroscepticisme assez fortes, alimentées aussi par des positions des partis, disons, qu'on dit souverainistes, et qui maintenant, comme ils sont au gouvernement, mais même ceux qui ne sont pas au gouvernement, ont cessé d'avoir cette position très dure vis-à-vis de l'euro. Moi, je dirais aussi que la position des Italiens vis-à-vis de l'euro et de l'Europe dépend aussi de la position de l'Europe vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire quel euro et quelle Europe va nous attendre et va aussi prendre soin de nous, d'une certaine manière. Donc, ça va dépendre.
Vu du Royaume-Uni, où on a à la fois, Paolo Gerbaudo, des écarts de revenus très importants dans la population, où on a quitté l'Union européenne et où on n'a jamais voulu de l'euro, comment est-ce qu'on regarde la situation actuellement ?
Je pense que donc, l'euroscepticisme était dû à la situation de l'Europe dans la décennie dernière, où il y avait cette idéologie de l'austérité qui a conduit le continent au sous-développement. Parce que lorsque les Européens ont entendu des nouvelles de Bruxelles au cours de la décennie précédente, c'était parce qu'ils avaient besoin de couper quelque chose, hein? L'éducation, la santé et tout ça. Maintenant, ils ont besoin de recevoir des nouvelles de Bruxelles sur des projets de développement, construction de nouveaux réseaux énergétiques, de nouveaux réseaux de transport, de nouvelles industries à l'échelle du continent, de nouveaux pôles de développement technologique, de nouvelles opportunités d'emploi et d'emploi manufacturier en particulier. Donc l'alternative, c'est de se faire écraser dans la confrontation géopolitique et géoéconomique entre la Chine et les États-Unis. Mais je pense qu'il faudra encore plus de chocs, de traumatismes pour que les politiciens européens prennent conscience de la réalité.
Pourtant, on voit que l'Europe, elle, présente des grands projets d'investissement, que ce soit dans le numérique ou que ce soit dans la croissance verte. Je ne sais pas si elle est à la hauteur du changement climatique qui s'annonce, mais il y a quand même une volonté dans ce sens.
C'est toujours un petit peu en transition entre l'austérité de la décennie dernière et la conscience qu'on doit faire des choses plus ambitieuses, plus grandes. Mais je pense qu'il faut un petit peu plus de temps pour sa transition, parce que sa transition développe.
Gilles Gressani, vous voyez des signaux positifs, vous, aujourd'hui? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut encore un peu de temps pour que tout ça se développe, hein?
Nous sommes clairement dans une situation dans laquelle rien de très positif est en train d'arriver. Toutefois, nous sommes face à des opportunités. Et au fond, je pense qu'on sort de la séquence de la crise Covid avec, au fond, le plan de relance. Et donc, une manière un peu déguisée, sans doute, de faire de l'endettement commun. On a appris aussi que certains blocages n'avaient pas trop de sens, même si, évidemment, l'espace allemand, politique allemande, n'a pas évolué tant que ça sur des éléments austéritaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de reposer face, notamment à la nouvelle crise de l'inflation qui va arriver, le même type de rigidité qu'on a connu auparavant. Donc, au fond, je dirais qu'il y a un apprentissage. Et aussi, un autre élément positif, mais encore une fois, dans un contexte tragique, donc c'est difficile d'utiliser ce mot, c'est que la question de la défense commune et donc la territorialisation de l'Europe et donc le fait de penser et réfléchir à l'échelle du continent est désormais quelque chose d'assez intégré et qu'effectivement, le vieux projet de commission géopolitique lancé par Ursula von der Leyen en 2020, au fond, aujourd'hui semble atterrir. Parce que quand on parle de géopolitique, on parle de logique d'adversaire, d'inimitié. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une forme d'opposition très nette avec la Russie de Poutine.
Massimo Amato, ça me fait penser, vous écrivez que l'Europe est complètement prête pour l'économie de guerre face à la militarisation éventuellement nécessaire ou en tout cas réclamée par les forces politiques, mais qu'il faudrait pouvoir se servir de cette économie pour une paix durable, pour une paix à venir.
Oui, vous faites référence à un article que j'ai publié sur...
Dans le Grand Continent, oui.
Oui, disons, je ne sais pas si... Elle est prête, surtout il faut qu'elle se prépare pour ça. Et la façon où on se prépare à la guerre, ça peut préparer aussi les conditions de la paix, évidemment. Donc il ne s'agit pas tout simplement de militariser l'Europe, mais disons, de renforcer l'espace unitaire européen, surmonter disons, les clivages qui ont empêché l'intégration européenne, pour que l'Europe puisse compter comme un sujet, disons, négociateur, un sujet d'équilibre dans une compétition multipolaire qui risque évidemment de nous étouffer, tout simplement parce qu'on n'a pas la force, d'une part, de faire l'intérêt, disons, de la communauté internationale, tout en gardant un œil sur nos propres intérêts en tant qu'Européens.
Thank you.
Greatest Boy Alive, Inflation, Carrefour de l'Europe sur RFI, face à la guerre, inflation, endettement qui ébranle l'économie du continent. Comment y faire face? Comment construire pour la paix? Nous recevons l'économiste Massimo Amato et le sociologue Paolo Gerbaudo. C'est une émission avec nos partenaires de la revue Le Grand Continent. C'est Gilles Gressani et Ramona Bloch qui sont avec nous ce dimanche. Vous y faisiez allusion, Massimo Amato. Il faut arriver à cette cohésion européenne, trouver ce qui n'avait pas marché, essayer de réparer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on risque de revivre une crise comme celle des subprimes en 2008 et puis ensuite la crise de l'euro qui avait débouché derrière?
Je crois qu'on risque surtout de revivre une crise de la dette souveraine, donc la crise de l'euro, justement parce qu'on n'a pas encore fait le pas décisif vers ce que j'appelle une gestion collaborative de la dette publique au niveau de l'euro, de la zone euro. Qu'est-ce que je veux dire? Jusqu'ici, les États allaient sur les marchés pour se faire financer, d'une certaine manière, l'un contre l'autre. Vous voyez, moi, je suis meilleur des autres, donc il y avait une compétition.
À l'heure, vous parliez des spreads entre l'Italie, par exemple, et l'Allemagne.
Voilà. C'est exactement ce qu'on risque, c'est exactement ça. Parce que face à ces clivages, à ces divisions, les marchés doivent, d'une certaine manière, se protéger, laissez-moi dire comme ça, des risques qu'ils créent eux-mêmes. C'est-à-dire, si face au marché, il y a une zone euro gérée de façon à laisser percer le doute qu'il y aura une possible explosion de la zone euro. Mais évidemment, ce risque-là, il faut lui donner un prix. Mais si on donne un prix, évidemment, on contribue à ce que la désintégration augmente. On parlait du risque de redénomination. Donc, l'Italie payait aussi en avance le prix de ne plus être dans l'euro, tout simplement parce que c'était une possibilité. Alors, il faut évidemment donner au marché des signaux absolument clairs concernant le fait que l'Europe va tenir. Mais ce signe, ces annonces, il faut qu'ils soient crédibles.
Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on parle du marché, mais derrière, évidemment, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui le font. Et est-ce qu'il y a...
Et des ordinateurs
aussi. On va en rester aux hommes et aux femmes qui sont peut-être plus faciles à comprendre ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas là...
S'ils restent sobres, oui, mais parfois, on devient un peu fou. Donc, c'est ça le problème. Excusez-moi.
Parce que
c'est les rôles des attentes des marchés. Quand on dit que les marchés paniquent, ça ne veut pas dire que les gens
s'arrachent
les cheveux. Tout simplement qu'il faut qu'ils se protègent par des risques qui peut-être existent justement parce qu'ils sont évoqués. Donc il y a une irrationalité profonde des marchés, au mieux, si vous voulez, une incapacité des marchés d'arriver à un point d'équilibre dans toute situation. Donc, il faut des signaux extérieurs.
Sachant qu'aujourd'hui, les personnes qui sont sur les marchés ou les ordinateurs n'ont peut-être pas de mémoire de ce qui s'est passé en 2008-2009. Est-ce que ces dernières années, la façon d'acheter ou de vendre de la dette était avec des facteurs de risque qui étaient bien différents?
Ceux qui gèrent les portefeuilles, ils ont une logique de protection, évidemment. Mmh. Disons, il faut gagner, mais il faut pas trop risquer. Donc, il faut équilibrer les risques et les rendements. Ça, c'est clair. La demande qui vient des marchés, si on fait attention, disons, aux signaux, c'est une demande de stabilité. Et cette demande de stabilité requiert qu'il y ait des signaux très clairs du côté non seulement des États, mais aussi des banques centrales. Et c'est là que le plus difficile se joue, parce que évidemment on n'est plus dans la situation du whatever it takes et Mario Draghi en 2012, on n'est plus dans la situation de 2015 où il y avait une possibilité d'expansion du budget de la banque centrale qui achetait les titres publics. Maintenant, on est face à un arbitrage à faire, parce que la Banque centrale peut-être qu'elle n'a plus la force pour soutenir, disons, les rendements des titres d'État. Et donc, les marchés ont besoin des signaux.
Des signaux. Et est-ce qu'une agence européenne de la dette que vous préconisez, ce serait un de ces signaux ?
Oui, ça serait une. Mais évidemment, comme je la préconise, je suis au moins moi-même, j'en suis convaincu. Oui, ça c'est évident. Mais disons, je donne aussi trois conditions pour que une, parce qu'il n'y a pas que ma proposition. Il y a aussi la proposition qui avait été relayée par Mario Draghi et le président Macron le 23 décembre sur les Financial Times, d'une agence de la dette différente, disons, qui travaille de façon différente de la mienne. Pour moi, les caractéristiques sont trois. Il ne faut pas qu'il y ait de la mutualisation des risques, parce que politiquement, ça ne passe pas. Il ne faut pas que les contribuables français payent pour la dette italienne ou vice-versa. Chacun État est responsable. Mais il faut aussi qu'une agence de la dette puisse prendre sur soi toute la dette européenne, toute. Parce que si on laisse quelque chose dehors, on l'expose évidemment au bazooka des marchés qui vont tirer dessus. Si on peut le faire, on le fera. Troisième chose, il faut que la régie de cette agence soit une régie contracyclique, c'est-à-dire qu'elle aide les États à se financer plus facilement dans des situations de détresse. Et ça, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé avec la crise, des dettes souveraines. Comme les États étaient perçus en crise, on demandait des sacrifices. Mais ces sacrifices empiraient la situation des États. Et donc, on était dans une boucle infernale dans laquelle on avait du mal à sortir, évidemment.
Est-ce qu'aujourd'hui, les États seraient prêts à une agence européenne de la dette, vous pensez, Paolo Gerbaudo?
Je pense que la vraie urgence ici, c'est pas seulement monétaire, mais c'est aussi social, non, et politique, parce qu'on doit sortir de ces boucles infernales. Et je pense que dans l'hiver, peut-être qu'on va avoir un grand conflit social, parce que l'inflation, c'est très dur pour beaucoup de personnes qui ont déjà perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Et pour soi, à moins que l'État intervienne, nous allons voir une phase de grand conflit social, je crois, dans l'hiver. Également parce que les travailleurs, maintenant, ne sont pas syndiqués pour défendre leurs intérêts, et la colère risque d'exploser. Et je pense que ça, les politiciens européens ne considèrent pas de manière suffisante, de façon suffisante. Et cela pourrait à nouveau alimenter le populisme des droits, non, des Salvini, des Meloni, et tout ça. Donc, je crois que maintenant, on a besoin de beaucoup de courage pour répondre à la crise. Que ce n'est pas seulement une crise monétaire, aussi une crise monétaire seulement, mais aussi, la crise principale pour moi, c'est la crise sociale et politique.
Comment est-ce qu'on y répond si les citoyens voient leur pouvoir d'achat fondre? Ça passe par une augmentation des salaires, ça passe par plus d'argent dans les services publics, sachant qu'il n'y a pas plus d'argent dans les caisses des États.
Donc, les services publics, certainement, mais aussi contrôle des prix pour faire face à l'inflation. Donc, maintenant, il y a un petit peu de contrôle des prix sur l'énergie, mais on a besoin de contrôle des prix sur beaucoup d'autres secteurs économiques. Il y a déjà beaucoup de débats sur cela. Isabella Weber, une économiste des États-Unis, a déjà écrit sur cela. Mais il y a toujours beaucoup de résistance pour part des économistes néolibérales qui pensent encore que les prix sont un mécanisme sacré dans la rationalité du marché. Et aussi, salariés indexés, comme il avait jusqu'à la décennie de 80, par exemple, en Italie et dans d'autres pays. Parce que le problème maintenant, est-ce que les travailleurs... La différence entre maintenant et les années 80, c'est que maintenant les travailleurs ne sont pas syndiqués. Ça veut dire que l'inflation est très dure pour son pouvoir d'achat. Et je pense que pour faire face à l'urgence, on doit changer culturellement la politique, non, et abandonner sa vision de l'État comme l'État gaspilleur, non, qu'il avait dans l'ère néolibérale. L'alternative, c'est Trump ou quelque chose pire que Trump, c'est Le Pen ou quelque chose pire que Le Pen.
Vous êtes d'accord avec cette sombre prophétie, Ramona Bloch ?
Je suis un peu optimiste, un peu plus optimiste. Et je pense aussi qu'il y a une série des instruments européens qui ont la flexibilité et qui permet un peu d'apporter des réponses et que l'échelle européenne reste l'échelle pertinente pour adresser toute cette question. Et par exemple, je prends un cas très précis, c'est l'urgence immédiate que la guerre en Ukraine a relevée, c'est l'urgence énergétique qui intervient dans un contexte où l'Europe s'était déjà donné des objectifs climatiques assez ambitieux. Et du coup, dans ce contexte, la réponse qu'on a su apporter, c'est ce plan Repower EU que la Commission a présenté, qui effectivement nécessite des investissements supplémentaires qui sont estimés à 210 milliards d'euros d'ici 2027 pour arrêter les importations des hydrocarbures russes. Et ce qui est intéressant, c'est que les instruments européens sont quand même assez flexibles parce que cet investissement vient d'où ? Vient du prêt qui était déjà prévu dans le plan de relance qu'on a créé pendant la pandémie.
Il y a beaucoup de pragmatisme aujourd'hui, on a l'impression, au niveau européen, beaucoup plus qu'il y a 10 ans.
Beaucoup plus de pragmatisme et beaucoup plus de rapidité dans la réponse. Si on regarde toutes les mesures qu'on a su adopter depuis le 24 février et si on compare avec les réponses qu'on a su apporter par le passé, on voit que le temps européen devient plus dynamique.
C'est rétréci.
C'est rétréci, oui. Mmh. Ce qui est une bonne nouvelle pour tout ce qui nous attend.
Même si on nous annonce un hiver absolument terrible avec des coupures de gaz, avec l'Autriche ou l'Allemagne qui se remettent au charbon, l'Allemagne qui imagine même peut-être retarder sa sortie du nucléaire.
Dans ce cas aussi, la réponse essaye d'être européenne parce que l'obligation de remplir le stockage de gaz à 80% d'ici le 1er novembre intervient dans un contexte où on a demandé à la Commission européenne de réaliser des achats en commun de gaz. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant et c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi. Et dans le cas, effectivement, de l'Allemagne qui se retrouve dans une position très délicate, surtout par rapport aux choix nationaux qui ont été faits ces dernières décennies, c'est intéressant parce que ça renverse les relations entre les États membres. L'Allemagne, les dernières décennies, a été du côté de pays qui recevaient la demande de solidarité. L'Allemagne se retrouve maintenant dans la position de pays qui demande la solidarité à ses voisins.
Tout en restant cette première économie de la zone euro, une des plus principales puissances économiques mondiales, et on a l'impression que aujourd'hui, on ne sait pas très bien, encore une fois, comment les Allemands veulent se positionner au niveau économique. Ils ont un peu clarifié leur position au niveau géopolitique avec le discours d'Olaf Scholz, c'était en février dernier, sur ce changement de monde, sur ce changement d'époque. Mais est-ce que au niveau économique, aujourd'hui, les Allemands prennent toutes leurs responsabilités, Massimo Amato ?
Disons, la bonne nouvelle, c'est que le front unique du Schuldenbremse et donc du frein à la dette, qui a été vraiment le mantra, comme on disait, de toutes les classes dirigeantes allemandes depuis la naissance de l'euro, il n'est plus un front unique. C'est-à-dire qu'il y a un débat. Heureusement, même en Allemagne, il y a un débat, il y a des positions. Parfois un tout petit peu polarisé, parfois encore, disons, embryonnaire, mais qui sont là. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau, disons, des décideurs, les sentiments que j'ai eus déjà avec le plan de relance et les feux verts au plan de relance de la part de Merkel, c'est que l'Allemagne, qui probablement a profité d'une, disons, faiblesse de l'intégration européenne pour émerger en tant qu'économie hégémonique, maintenant, on comprend très bien que son avantage est aussi l'avantage de l'Europe et que le risque d'une crise systémique, donc d'une implosion de la zone euro, c'est quelque chose dont elle doit être prête à payer le prix, d'une certaine manière.
Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
On l'a un peu évoqué depuis le début de cette émission, mais dans une économie qui reste malgré tout mondialisée, l'Europe n'agit pas seule. Nous allons en Chine retrouver notre envoyé spécial permanent à Pékin, Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juliette.
Chez vous, l'inflation reste pour le moment maîtrisée.
C'est ça, on a eu même un ralentissement des prix ici à la production en mai, à son rythme le plus faible en 14 mois, cela en raison de la faible demande pour l'acier et l'aluminium, notamment les usines ayant pour partie été paralysées par la série de confinements des mégalopoles chinoises. Vous en avez sûrement entendu parler sur RFI, notamment de Shanghai ces derniers mois en raison de la résurgence Covid. Alors pour ce qui est des prix à la consommation, je ne sais pas si je suis une ménagère de référence, en tout cas mon panier n'a quasi pas bougé. goûter. Chacun a ses produits fétiches, Juliette, mais dans la supérette à côté de chez moi, je prends souvent des jiaozi, des raviolis chinois congelés, des yaourts pékinois aussi, et puis du pain. Chez un boulanger bavarois, il y en a un, pas loin de l'école de mon fils, et oui, ça existe ici. Et pour ces trois produits, je n'ai pas constaté de hausse des prix. La seule chose qui a légèrement augmenté, c'est le fromage en barquette, des tranches de fromage donc importées d'Europe du Nord, mais pour l'instant, ça reste stable, tout simplement parce que la Chine a des réserves. Hein. Pékin était le premier consommateur, le premier importateur de céréales ukrainiennes avant la guerre. Des accords ont été passés depuis avec la Russie. On a ici les plus importantes réserves de blé au monde. Et puis surtout, le robinet à pétrole russe coule à flot, mais aussi le gaz, à des tarifs qui ont été négociés très bas au nom de l'amitié sino-russe.
Alors Stéphane, chez vous vient de se tenir le sommet des BRICS, hein, de manière virtuelle. En même temps, quasiment ce que se tenait en Europe le sommet du G7. Au gré de ces alliances économiques, on voit se constituer des blocs politiques.
Oui, alors ce qui est d'autant plus visible, c'est que ces projets d'extension d'alliance ont lieu au même moment. Le sommet des BRICS, la semaine dernière à Pékin, c'est un sommet virtuel, hein, je le rappelle, était prévu de longue date, donc ce n'est pas la volonté de coller au G7, mais on a bien vu quand même que c'était un peu un contre-G7, ce sommet des BRICS. Hein. On rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ça pèse les BRICS, un quart du PIB mondial, 40% de la population. Et si officiellement, contrairement à ce qui est qualifié de petite clique des États-Unis, hein, c'est comme ça que la diplomatie chinoise appelle le G7, si officiellement donc ces BRICS ne sont pas une alliance, mais un partenariat tourné vers le développement des pays, c'est ce qu'on nous dit ici. On voit bien que ce projet d'expansion du groupe avec des pays comme l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie, l'Égypte, les Émirats arabes unis qui toquent à la porte, paraît-il, eh bien ce projet est aussi pour Pékin une manière d'étendre son influence, sans parler de Moscou qui s'accroche aux BRICS pour dire que la Russie n'est pas toute seule. Les partenaires de Moscou dans cette affaire n'ont pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Je le rappelle, en 2012, Pékin avait ajouté un S aux BRICS en faisant entrer l'Afrique du Sud dans le groupe des émergents. La Chine veut aller plus loin aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs du goût de ses partenaires, hein, Brésil et Inde notamment. Si extension il y a, ce sera sur la base du consensus, répète aujourd'hui la diplomatie chinoise. L'année prochaine, c'est l'Afrique du Sud qui recevra le forum des BRICS et qui invitera probablement d'autres pays d'Afrique via le dialogue BRIC+.
Merci Stéphane Lagarde, envoyé spécial permanent de RFI à Pékin. Est-ce que l'Union européenne est de taille face à ce qui se joue du côté des États-Unis où on vient de l'entendre de la Chine, Paolo Gerbaudo?
Je pense que c'est l'Union européenne, mais aussi les gouvernements nationaux. Et il y a des exemples intéressants, des modèles intéressants. Je pense que dans ces moments, c'est en particulier les États espagnols, où il y a une initiative pour construire un modèle social plus inclusif, par exemple avec la réforme du travail qui a été achevée par la ministre du Travail, Yolanda Díaz. Mais au moment, c'est plutôt l'exception. Il y a encore une énorme résistance à un changement dans l'économie politique de la part de ceux qui soutiennent les anciens lobbies, les anciens intérêts de l'ère néolibérale. Enfin, regardez ce qui a passé avec Biden et avec sa agenda de Build Back Better, qui a été détruit pour la résistance, face à la résistance des centristes dans ces partis. C'est pour ça que je suis toujours assez pessimiste quant à l'avenir. Parce que maintenant, les politiciens dans les États-Unis, mais aussi dans l'Europe, sont face à un possible désastre social et ils tergiversent toujours face à cela.
Pour vous, je l'entends, c'est vraiment en proposant un modèle européen, un modèle social européen, qu'on est de taille à faire face aux États-Unis, à la Chine. Est-ce que pour vous, Massimo Amato, ce sont ces grands défis-là qui se posent aujourd'hui ?
Il y a ce défi et encore une fois, si on veut vraiment faire de l'Europe un espace politique intégré, je ne dis pas homogène parce que c'est pas ça la question de l'Europe, c'est pas l'homogénéité, c'est plutôt la différence, mais une différence bien intégrée, alors c'est clair qu'il faut accepter l'idée que les investissements publics doivent être augmentés, pas seulement dans la direction des politiques sociales, mais aussi des politiques énergétiques, et pourquoi pas aussi des politiques de défense, au sens que, et là je rentre dans la question géopolitique au sens strict, l'Europe risque de ne rien compter dans un monde qui est multipolaire, et dans lequel il faut pouvoir avoir une voix unitaire, d'une certaine manière. Alors, l'intégration aussi financière de l'Europe, c'est-à-dire la possibilité que l'Europe finance ses grands plans d'investissement avec une force disons, une agence de la dette, évidemment, mais en général avec une capacité d'accéder au marché de façon unitaire, mais ça pourrait l'aider évidemment aussi à se positionner. S'est positionné vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Un seul exemple, si en Europe, on arrivait à produire, à émettre un bond, une obligation européenne sûre, ça irait à l'aide des États-Unis qui, pour l'instant, ont gardé ce rôle de fournisseur de liquidités pour le monde entier, mais qui ont un problème, disons, d'efficacité qui diminue, évidemment. On ne peut pas, disons, s'endetter à l'infini. Donc, l'Europe pourrait venir à la rencontre des États-Unis, donc en réduisant les poids relatifs de la Chine, et à partir de ça, pouvoir aussi dicter ses conditions pour un ordre mondial équilibré et pacifique.
Gilles Gressani, on parle de la place géopolitique de l'Europe, on parle de politique monétaire. Est-ce que on risque pas, à travers tous ces débats, d'oublier un petit peu les valeurs européennes? Je vous pose la question dans le sens, Stéphane Lagarde en parlait, au sein des BRICS, on pourrait avoir l'Inde aux côtés de la Chine, donc des adversaires. On pourrait avoir des concurrents comme l'Argentine et le Brésil. En Europe, on voit que, par exemple, la Pologne, qui est un partenaire absolument indispensable des Européens sur la question de la guerre, aujourd'hui, finalement, après que l'Europe a fait pression pour qu'elle respecte les valeurs démocratiques, en lui disant qu'elle n'aura pas l'argent du plan de relance qu'elle voulait avoir, finalement cède un petit peu. Est-ce que ça, c'est pas une préoccupation pour la cohérence du projet européen ?
C'est une question très compliquée parce que, au fond, et c'est clair qu'on est un peu sorti de la période dans laquelle ce sont les valeurs, en tout cas l'impression, l'idéal des valeurs qui dirige et pilote ou qui semble piloter l'action de l'Union européenne. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut regretter, évidemment, mais face auquel on peut faire très peu de choses. On est dans un monde beaucoup plus rugueux, d'un rapport de force. Et je pense que même le piège qu'on pourrait avoir, c'est de penser qu'aujourd'hui, nous sommes face à un affrontement entre un espace autoritaire, un espace démocratique. Je crois que, de fait, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on essaye d'apprendre avec la crise en Russie, c'est que, de fait, pour réagir à des espaces très autoritaires, il faut avoir des politiques qui, parfois, sont stratégiques et donc pas forcément fondées sur les valeurs. Quand on se refournit en gaz au Qatar, ce n'est pas forcément parce que c'est un régime beaucoup plus démocratique. On le fait parce qu'effectivement, et c'est juste, il faut aujourd'hui être capable de mettre à mal le régime de Poutine. Et c'est là, je crois, qu'il faut être capable de composer entre ces deux choses. C'est un peu cette vieille idée qu'au fond, pour constituer une puissance, un pouvoir qui soit capable de retenir, il faut aussi endosser le fait que le monde est un monde de rapport de force. Et donc, il faut savoir jouer un rôle et départager les valeurs de la force.
Carrefour de l'Europe, merci à nos partenaires Ramona Vlogé et Gilles Gressani du Grand Continent et à nos invités, l'économiste Massimo Amato, le sociologue Paolo Gerbaudo. À la réalisation, Guillaume Buffet. Carrefour de l'Europe se met en pause le temps de l'été. Nous vous retrouvons le 11 septembre prochain. En attendant, vous avez rendez-vous sur l'antenne d'RFI avec la librairie estivale francophone ainsi qu'avec les séries d'été du Grand Continent qui paraîtront sur le site de la revue à partir du 15 juillet prochain. Grand Tour, Femmes de lutte, Échelle de l'habité. Je rappelle que le premier volume de Politique de l'interrègne est en librairie actuellement. Quant à nous, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux et nous réécouter sur RFI.fr ou les plateformes d'écoute. Et bien sûr, vous abonner au podcast de l'émission. À bientôt.